Bon jeudi 26 avril 2018, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous dansez sur le thème?
Bonjour.
Oui, vous aimez cette musique.
Hein? Ah, j'adore le groupe Maz.
Oui, vous l'avez vu en spectacle?
Oui, plusieurs fois. Alors, je porte quelquefois un chandail que j'ai acheté lors de leur concert, puisque je possède déjà leur album.
Alors... Oui, mais pas aujourd'hui.
Non.
Qu'est-ce qui est écrit? Happy Little Trees.
Happy Little Trees. Bob Ross, qui était un peintre à la télévision.
Oui.
Et voilà.
Je connaissais pas.
Non, Bob Ross. Alors, regardez Bob Ross, sa coupe de cheveux était magnifique.
Oui, une espèce de boule.
Véritable afro.
Oui. Oui. Et c'est un Américain?
Oui. Il est décédé il n'y a pas très longtemps.
Ah, oh, alors...
Il a une gamme de produits aussi. Quand on fréquente les magasins de matériel d'art, on peut voir, il y a des pinceaux, quelques peintures à son nom, des palettes.
Eh bien,
voilà.
Ça manquait à ma culture.
C'était une technique particulière.
Oui? Ben, je vais aller voir ça. Merci, mon cher Mathieu. Puis pour
plaisir.
Les éphémérides, est-ce que c'est une date excitante?
Écoutez, je n'en reviens pas des choses qui se sont passées durant le 26 avril dans notre histoire. Je remonte en 1607, en Virginie. C'est la fondation de la première colonie anglaise permanente en Amérique. En 1865, dans une grange de Virginie, cernée par la police, 12 jours après avoir assassiné Abraham Lincoln, John Wilkes Booth est tué. En 1900, poussé par le vent, un incendie. Là, j'avais la chanson de Patrick Lapointe dans la tête.
Je pensais que c'était de ça que vous vouliez nous parler ou que
non,
vous alliez vous
tout.
Mettre à chanter.
Oui, ça a vraiment passé près. Donc, poussé par le vent... Un incendie parti de Hull atteint Ottawa.
Ouais, ça c'est
le
moins drôle.
Sinistre fait 7 morts et 15 100 abris.
En quelle année?
En 1900.
Ah.
En 1915, à Londres, par un accord secret, l'Italie se range dans le camp allié durant la Grande Guerre. En 1920, toujours un 26 avril, à Montréal, un juge statue que les avis dans les commerces doivent être bilingues. 1933, création de la Gestapo, police secrète nazie en Allemagne. 1937, en Espagne, Guernica est bombardée par l'aviation nazie, alliée de Francisco Franco. Et la tuerie inspirera donc la Grande Muraille de Pablo Picasso.
Mm-hmm.
1959, durant son voyage en Amérique du Nord, le nouveau président cubain Fidel Castro s'arrête à Montréal. 1963, c'est le... sinistre massacre du 26 avril en Haïti. En 68, sous le désert du Nevada, le Pentagone fait sauter une bombe atomique d'une mégatonne. Décidément, la journée d'aujourd'hui n'est pas dans la gaieté.
Pas du tout. Pleine catastrophe.
Exact. 1979, la Cour d'appel du Manitoba invalide la loi de 1890 qui interdit le français à la législature, devant les tribunaux et à l'école.
Une autre catastrophe.
Oui, tout à fait. Et pour terminer sur une note catastrophique toujours,
bon.
1986, l'explosion du réacteur à Tchernobyl en Ukraine provoque le pire accident de l'histoire du nucléaire civil. Il fera des milliers de morts au fil des années. Donc, je vous invite à dire à quelqu'un que vous connaissez « Je t'aime » puisque ça va balancer un peu les événements qui se sont passés le 26 avril.
Oui, puis peut-être aussi les naissances, ça peut être positif.
L'empereur romain Marc Aurèle, en 1921, pardon, et le cardinal Paul-Émile Léger sont nés un 26 avril. Nous aurions dû nous concerter. Et pour ce qui est malheureusement des décès, en 1984, le jazzman William Count Basie, qui était né, lui, en 1905, et l'aventurier et romancier anglais Daniel Defoe, qui était né, lui, en 1660, est décédé un 26 avril 1731. C'est tout.
J'ai envie de vous dire merci quand même.
Ça fait plaisir. Et je ne mettrai pas...
Poussé par le vent.
Mais voilà, je cherchais son titre.
À la une de la presse, une exclusivité, école de conduite dans la région de Montréal, la région même métropolitaine, c'est le Far West, des taux d'échec élevés, des formations au rabais, des écoles avec un seul employé propriétaire, Le DG de l'Association des écoles de conduite du Québec déplore l'état de son industrie. Pause repas, beurre ou margarine? La suite, le débat date des années 50 et il n'est pas terminé. Mise à jour. Pouvoir d'achat. Pas tous égaux devant le barbecue. Et Centre-ville de Montréal, travaux dans les centres commerciaux, où vont les 400 millions? Et la chronique de Marie-Claude Lortie, que je vous lirai un peu plus tard, intitulée « Sainte-Catherine, aidez-nous ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'industrie des leçons de conduite, tant à Montréal, à Laval qu'à Longueuil, est en déroute à la lumière des chiffres relayés et du portrait d'ensemble brossé par l'Association des écoles de conduite du Québec, AECQ. Ça ne va pas très bien dans notre industrie, et je dirais même que c'est le Far West, résume Mark Thompson, directeur général de l'association, en entrevue avec la presse. On ne peut se satisfaire d'un taux de réussite d'un peu plus de 60 % dans la région de Montréal. Ce taux est de 87 % à Trois-Rivières et de 79 % à Sorel, selon les chiffres obtenus par la presse, provenant de la SAAC. Ça signifie qu'un trop grand nombre de petites écoles qui ont pignon sur rue, dans certains coins de la ville, n'ont pas les compétences requises pour enseigner la conduite automobile. Il en va pourtant de la sécurité des futurs automobilistes, ajoute-t-il. Il montre du doigt l'Association québécoise des transports, AQTR, et la SAAC pour ce qu'il considère comme une absence de suivi et d'encadrement. Dans cette industrie où, précise-t-il, on accorde des permis sans rien vérifier. Alors, par ailleurs, l'Association québécoise des transports, visée par les critiques de l'industrie, a transmis notre demande d'entrevue à la SAAC, qui a limité ses commentaires à ceci. Les positions de l'Association des écoles de conduite sont connues, a répondu le porte-parole Gino Desrosiers. Il y a des travaux de réflexion en cours, mais nous ne sommes pas en mesure d'annoncer quoi que ce soit. Et il y a ici des chiffres assez éloquents. 100 000, c'est le nombre de permis de conduire accordés annuellement, 48 nombre d'écoles dont le permis a été suspendu ou révoqué entre 2010 et 2017, 96, c'est le nombre d'écoles qui ont fermé leurs portes entre 2010 et 2017. Ouvrir une école de conduite au Québec est une chose relativement facile. On fait une demande de permis à l'Association québécoise des transports. Le permis coûte 7 000 $. On vous demande d'avoir un bureau et un dossier personnel sans tâche. Il faut ensuite acheter une automobile neuve ou d'occasion et vous pouvez vous lancer. La presse à Toronto attaque au camion Bélier, mobilisation discrète mais efficace de la communauté coréenne. Discrètement, loin des caméras, la communauté coréenne de Toronto est en état d'alerte depuis lundi. Le consulat de la Corée du Sud a révélé mardi que deux de ses ressortissants avaient perdu la vie dans l'attaque au camion Bélier, perpétrée dans le nord de la ville. Le chef cuisinier Chul Min Kang, qui a grandi à Séoul, a lui aussi été happé mortellement. D'autres personnes issues de cette communauté seraient aussi blessées. Selon Daniel Lee, président de l'Association culturelle coréenne du Canada dans la ville reine, l'aide aux victimes et à leurs familles s'est organisée dès les premières heures suivant la tragédie. Des énergies ont été consacrées à fournir de l'aide aux proches des victimes, notamment grâce à un service de soutien psychologique, mais également à créer des liens avec les familles qui se trouvent toujours en Corée du Sud. Entre autres initiatives, une collecte de fonds a été organisée pour financer le rapatriement des corps vers l'Asie. Nous voulons aider les gens tout en respectant de notre mieux leur intimité dans ces moments difficiles, a dit M. Lee en entrevue avec la presse. L'Association culturelle coréenne du Canada recense quelque 120 000 membres à Toronto seulement. Le secteur visé par l'attaque de lundi est d'ailleurs l'une des deux Korean Towns de Toronto, l'autre étant au centre-ville. Malgré la barrière de la langue, Daniel Lee estime que la diaspora coréenne est l'une des mieux intégrées parmi les communautés culturelles de la ville reine. L'éditorial d'Alexandre Sirois, « Macron joue avec le feu » et entre parenthèses « et la fureur ». C'est donc Alexandre Sirois qui signe cet éditorial, je vous le rappelle. Il n'y a pas de doute, Emmanuel Macron joue un jeu dangereux. Le président français vient d'être reçu avec faste à Washington et il en a surpris plus d'un en traitant Donald Trump avec la déférence et les marques d'affection qu'on réserve généralement à ses plus grands amis. Complicité évidente, bise et sourire coquin, poignée de main virile, mais tendre. On a même qualifié de « bromance » la relation entre les deux hommes sur les ondes de CNN et dans divers autres médias américains. Difficile de ne pas ressentir un certain malaise devant cet étalage de bons sentiments de la part d'Emmanuel Macron à l'égard d'un politicien dont l'attitude et les décisions sur la scène internationale troublent et irritent plus qu'elles ne rassurent. Difficile également de ne pas s'en inquiéter. De tous les chefs d'État des démocraties occidentales, Emmanuel Macron est incontestablement celui qui traite Donald Trump avec le plus d'égards. Justin Trudeau, par exemple, a toujours été courtois en présence du président américain, mais ne s'est jamais comporté comme un de ses vieux potes. D'autres, comme la chancelière allemande Angela Merkel, n'ont carrément pas d'atome crochu avec Donald Trump et ne se gênent pas pour le démontrer. On sent qu'ils préfèrent se pincer le nez en attendant que l'ère Trump soit terminée. Et on peut les comprendre. Emmanuel Macron a pour sa part décidé de plaire à Donald Trump, visiblement par calcul politique. Il a constaté qu'il y avait un vide. Il cherche à le combler. Parmi les puissances européennes, ni l'Allemagne ni le Royaume-Uni n'ont été en mesure de développer une bonne relation avec les États-Unis depuis le départ de Barack Obama. S'il y parvient, cela pourrait être politiquement rentable. Par ailleurs, il s'est certainement dit qu'en se rapprochant le plus possible de Donald Trump, il pourrait l'influencer et donc tenter de désamorcer certaines des grenades politiques que le président américain lance avec une troublante régularité. Le hic, c'est que jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris sur le climat, même si Emmanuel Macron avait tenté de le convaincre de ne pas torpiller l'entente. Le même scénario s'est répété quand le président américain a décidé de déménager à Jérusalem l'ambassade des États-Unis en Israël, malgré l'opposition du président français. Or, si ce dernier n'est jamais capable de faire entendre raison à Donald Trump, il pourrait devenir un faire-valoir. C'est dangereux. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans le dossier iranien. Deux garçons et une fille âgés de 13 à 15 ans accusés d'avoir agressé sexuellement une adolescente pendant une fête le mois dernier à Montréal resteront détenus à leur résidence pendant les procédures judiciaires mais pourront poursuivre leurs études. L'adolescente aurait été agressée dans un appartement de Montréal-Nord en mars dernier. Le viol collectif de la victime aurait été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux selon le 98,5. Les trois adolescents font tous sensiblement face aux mêmes accusations. Agression sexuelle avec la participation de plus d'une personne, agression armée, séquestration et production, possession et distribution de pornographie juvénile, a indiqué la procureure de la Couronne. Une autre nouvelle qui donne froid dans le dos, un tueur en série arrêté après 40 ans d'enquête. C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique qui a mystérieusement échappé aux autorités pendant 40 ans. Pendant les années 70 et 80, le tueur du Golden State a violé une cinquantaine de personnes et en a assassiné 12 en plus d'avoir fait 120 cambriolages. Après avoir terrorisé la Californie et horrifié l'Amérique, Joseph James DeAngelo, un ancien policier, vient d'être arrêté hier dans la nuit, le moment où il commettait la plupart de ses forfaits. Appelé le tueur du Golden State d'après le surnom de la Californie, il a été retrouvé par analyse d'ADN près de Sacramento, la capitale californienne où s'est déroulé le plus grand nombre de ses crimes. Il y vivait paisiblement dans un beau quartier, selon les autorités.
Katie Anna McGarrigle avec la complainte pour Sainte-Catherine.
Une chanson qui date de, je ne me souviens pas quelle année, Mathieu, mais on peut dire que c'est une chanson qui est d'actualité en ce 26 avril, jour de conférence de presse qui annoncera tous les travaux, les transformations qui seront faites. Donc, sur la rue Sainte-Catherine, entre autres, je pense que la conférence de presse va avoir lieu dans quelques minutes, autour de 11 heures, avec Valérie Plante et son équipe. Donc, chanson de 1970. À la une du Devoir de ce 26 avril, une photo triste, encore une fois, des gens qui se recueillent, fleurs, bougies, parapluies, puisqu'il pleut à Toronto, comme à Montréal. Les Torontois ont continué de déposer des gerbes de fleurs et de se recueillir 48 heures après l'attaque meurtrière. Attaque au camion Bélier, le besoin d'une présence réconfortante, le soutien aux proches des victimes s'est rapidement organisé. Entente avec les médecins, Québec critiqué pour son manque de clarté. Les partis d'opposition ont écorché mercredi l'entente de Québec avec les médecins spécialistes, en plus de reprocher au gouvernement Couillard son manque de transparence, puisque Le Devoir a révélé que l'accord qu'il a conclu coûtera à terme au moins 4 milliards de dollars, soit deux fois plus que le montant véhiculé depuis février par les médias. Saint-Jérôme, des musées sont passés à côté d'une aubaine. La toile n'a pas trouvé preneur en 2016 alors qu'elle était offerte pour 4,56 millions. Trois musées se la disputent aujourd'hui pour 6,3 millions de dollars. Le MBAM, donc le Musée des beaux-arts de Montréal, a manifesté son intérêt mais n'a pas ressenti l'urgence d'agir. Au Congrès américain, la réponse de Macron à « L'Amérique d'abord » et la poète Nicole Brossard devient la première lauréate du prix Violette. Culture, Piaf, Dietrich et les deux solitudes, la chronique d'Odile Tremblay qui a assisté à une comédie musicale au Centre Seagull qui met en vedette Piaf et Dietrich, enfin les incarnations de ces deux grandes stars. Malgré la réouverture de tous les commerces et le retour de la circulation sur la rue Yonge, l'émotion des Torontois de North York était toujours aussi vive moins de 48 heures après l'attaque meurtrière au camion Bélier. Pour panser les blessures invisibles, l'aide et le soutien psychologique s'organisent. Rien, je ne sais toujours rien d'elle et sa famille non plus. Les larmes coulent lentement des grands yeux verts de Laura Square, et trace des sillons sur ses joues, comme les gouttes d'eau sur son parapluie. Elle demeure sans nouvelles de son amie camionneuse qui habite Toronto. J'ai appelé le numéro de téléphone que la police donnait pour les proches des victimes, mais je n'ai pas pu avoir d'informations. J'ai aussi appelé l'hôpital Sunnybrook et elle n'est pas là, sanglote-t-elle. Retenue au travail jusqu'ici, la jeune femme originaire d'Oshawa s'est libérée mercredi pour venir déposer des fleurs à la mémoire des victimes coin Yonge, et Finch. Laura n'a pas de raison particulière de croire que son amie se trouvait sur la rue Yonge au moment du drame et pourrait se réjouir qu'elle n'ait pas été admise à l'hôpital. Mais rien n'y fait. Je suis comme engourdie, sous le choc. J'ai un rendez-vous avec mon psy cet après-midi, j'ai besoin de parler. Parce que même si mon amie n'est pas parmi les victimes, c'est tellement effrayant ce qui arrive, dit la jeune femme, se décrivant comme une hypersensible. Pour aider des gens comme Laura, les secours et le soutien psychologique se sont organisés. En moins de deux, après l'attaque à la fourgonnette blanche. Beaucoup de gens ont l'impression de perdre la raison. Mais on les rassure en leur disant que c'est normal, a indiqué Bonnie McMurrich, directrice générale associée du service d'aide aux victimes de Toronto. Habituée des crises, ce service a tout de suite propagé partout dans ses réseaux. Le numéro de sa ligne téléphonique d'urgence. Il a reçu une centaine d'appels en moins de deux jours, des membres de la famille de témoins ou de personnes mortes. Chaque individu réagit différemment en situation de crise. La plupart des gens sont en état de choc et il n'y a pas de grande conversation quand ils appellent. On essaie juste d'être présent pour eux, explique Mme McMurrich. Des visages sur le nom des victimes, attaque à Toronto, une mère monoparentale, une aînée pleine d'entrain, la meilleure grand-maman, un Jordanien en visite, un cuisinier dévoué, une femme à la bonne humeur légendaire, Le portrait des victimes de l'attaque au camion Bélier qui a fait 10 morts à Toronto se traçait lentement 2 jours après la tragédie. Mardi, le coroner en chef de l'Ontario, le Dr Dirk Hoyer, a expliqué que l'identification officielle des victimes prendra plusieurs jours, mais les proches de certaines d'entre elles ont confirmé leur décès aux médias mercredi. Bien qu'il reste encore 18 mois à son mandat, le député libéral fédéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, Nicolas Di Orio, démissionnera sous peu. Pudique, il n'a pas voulu s'épancher sur les raisons précises de son départ, sauf pour reconnaître qu'elles étaient de nature personnelle et liées à son entourage. Il a proclamé « mission accomplie » parce qu'Ottawa a accepté de financer le prolongement de la ligne bleue du métro qui se trouve dans sa circonscription. Cet avocat et professeur de droit se félicite surtout de sa sortie publique dans Le Devoir en faveur du respect de l'alternance entre un juge anglophone et un juge francophone à la tête de la Cour suprême du Canada. Des rumeurs faisaient croire que Justin Trudeau aurait pu nommer un autre anglophone après le départ de Beverly McLachlan. Il a finalement choisi le Québécois Richard Wagner. Ce départ porte à 2 les sièges québécois vacants à la Chambre des communes. Le libéral Denis Lemieux a démissionné en décembre dans Chicoutimi-le-Fjord. Outremont se libérera sous peu lorsque Thomas Mulcair quittera son siège. Année après année, les données du CEFRIO pointent sans cesse dans la même direction. Le commerce électronique est en augmentation constante et reste surtout l'affaire de sites extérieurs avec 4 $ sur 5 dépensés hors Québec. Dans son rapport déposé mercredi, le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, CEFRIO, propose une lecture 2017 de l'achat en ligne. Ainsi, près de 6 Québécois sur 10 portent l'étiquette de cyberacheteurs. Ils ont dépensé en moyenne 863 $ l'an dernier, mais 80 % de cette somme était dirigée vers des sites hors Québec. Au total, le commerce en ligne reste marginal. Air Canada a annoncé le lancement à compter du 2 juillet de services quotidiens sans escale Montréal-London et Montréal-Windsor. On se retrouve après la pause.
L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne.
Vous avez sans doute reconnu Ariane Moffat et cette chanson, c'était « Fracture du crâne ».
En une du Journal de Montréal de ce 26 avril, à l'époque de Denis Coderre, on a une photo de l'ancien maire de Montréal, « Party de 266 000 $ à vos frais ». 14 000 $ d'alcool, une chanson de Grégory Charles à 10 000 $ et la ville qui achète une recette. Scandale Lafarge, la police belge a espionné Paul Desmarais Junior. Et hockey junior, Patrick Roy retourne avec les Remparts. L'administration Coderre a fait ses dépenses inusitées pour les cérémonies du 375e anniversaire de Montréal. La ville s'est servie des fonds publics pour devenir propriétaire d'une recette de dessert et payer l'enregistrement d'une chanson de Grégory Charles au moment où Denis Coderre était maire. En fouillant dans les dépenses que s'est permise la ville pour célébrer son 375e anniversaire, le journal a découvert de nouveaux faits troublants. Nous révélions en février dernier que les contribuables avaient notamment payé 4 000 $ pour servir un dessert aux 700 invités du maire lors d'une fête privée le 17 mai 2017. L'événement avec traiteurs luxueux, alcool, DJ et prestations musicales se déroulait dans une salle aux murs vitrés du Vieux-Montréal. Depuis, les témoignages que nous avons recueillis montrent qu'une partie de la facture payée au réputé pâtissier Patrice Demers a en fait servi à acheter tous les droits de reproduction et de publication de ce dessert. La ville est ainsi devenue propriétaire d'une recette de croustillant à la mélasse avec baba imbibé au miel et à la bière. Les questions posées par le journal ont aussi permis de constater que l'artiste Grégory Charles n'a pas seulement offert une prestation musicale devant les invités le soir du 17 mai. La ville l'a également engagé pour enregistrer préalablement à ce party l'une de ses compositions, le Blues de Montréal, au prestigieux studio Piccolo. Coût 10 048 $. Des copies de l'enregistrement ont été distribuées exclusivement aux 700 invités du maire qui ont chacun reçu un code permettant de télécharger la chanson. La ville est incapable de dire à combien de reprises la chanson a été téléchargée, puisque cette donnée n'a pas été compilée. Grégory Charles avait interprété cette composition devant plusieurs dignitaires, dont l'ex-maire Coderre, lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en février 2016. M. Coderre avait tellement apprécié le morceau qu'il a ensuite demandé à l'artiste de l'offrir à ses invités présents le 17 mai. Au moment d'écrire ces lignes, la chanson n'est disponible nulle part pour que les contribuables qui ont payé pour l'enregistrement puissent l'entendre. Contacté par le journal, Grégory Charles n'a pas pu nous fournir une copie de cette pièce, expliquant avoir remis le fichier à la Ville de Montréal. Et pendant que Mathieu fait des recherches pour essayer de trouver la chanson introuvable, paraît-il, signée Grégory Charles, je vous lis un autre article, enfin des extraits de ce texte intitulé « Paul Desmarais Jr. mis sur écoute par la police belge ». Le co-PDG de Power Corporation a été interrogé sur des paiements présumés à l'État islamique. Un membre d'une des familles les plus riches et puissantes du Québec, Paul Desmarais Jr., aurait été interrogé et mis sur écoute par la police belge à la fin 2017 dans le cadre d'une enquête sur des paiements allégués du cimentier Lafarge au groupe terroriste État islamique. Le réputé quotidien Le Monde a révélé hier que Paul Desmarais Jr. et trois autres administrateurs de GBL, un holding des familles Frères et Desmarais, ont été rencontrés par des policiers belges le 13 décembre 2017. Leur téléphone a également été placé sur écoute dans le mois précédent cette rencontre, selon Le Quotidien. La police belge cherche à savoir ce que savait exactement la direction de GBL dans l'affaire des paiements allégués de Lafarge au groupe armé État islamique en Syrie entre 2012 et 2014. Paul Desmarais Jr., co-PDG de Power Corporation, siège au conseil de Lafarge depuis 2008. Lafarge, renommée Lafarge Holcim, après une fusion avec le cimentier suisse Holcim, a admis avoir eu recours à des pratiques inacceptables pour continuer à opérer une raffinerie neuve dans le nord de la Syrie pendant la guerre civile. Pour l'instant, les enquêteurs disent n'avoir trouvé aucune preuve tangible que les représentants de GBL étaient au courant de paiements de ALEI. Le Monde affirme que les policiers belges s'interrogent devant une absence vertigineuse d'informations. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit qu'il faut être conscient des caméras dans la salle du conseil municipal alors que le maire du plateau, Luc Ferrandez, s'est assoupi deux fois lors de la séance de lundi soir. Les apparences sont ce qu'elles sont. Ultimement, quand tu es assis dans une salle de conseil, il y a des caméras, a-t-elle lancé hier au micro de Paul Arcand. Elle ajoutait plus tard qu'elle ne fermait pas les yeux lorsqu'elle savait qu'elle était filmée par des caméras. Luc Ferrandez a accusé mardi les médias de Québecor de ternir sa réputation en diffusant des images le montrant assoupi pendant la période de questions des citoyens au conseil municipal. Une partie des employés fédéraux victimes du fiasco du système de paye Phoenix ont reçu l'autorisation de poursuivre le gouvernement du Canada. La demande d'Esmi Bouchard, une ex-employée de Passeport Canada à Québec, a été autorisée par la Cour supérieure du Québec le 3 avril. Au nom d'une partie des employés touchés, Mme Bouchard pourra donc intenter une action en dommages-intérêts, invoquant la faute contractuelle du gouvernement du Canada envers ses employés lors de l'implantation du système de paie Phoenix et dans la gestion de la crise causée par les défaillances de ce système, peut-on lire dans le jugement. Alors, la rue Sainte-Catherine, Montréal réaménagera la rue Sainte-Catherine en y enlevant les espaces de stationnement et en élargissant les trottoirs. Lorsque l'artère sera revampée, les voitures ne pourront circuler que sur une seule voie entre les rues de Bleury et Mansfield. Les espaces de stationnement seront retirés et une voie de livraison sera aménagée à droite. L'administration de Valérie Plante n'a pas voulu confirmer ces informations, indiquant seulement que la mairesse avait rencontré des représentants de commerce hier pour présenter le nouveau plan de réaménagement qui sera dévoilé aujourd'hui. Le transporteur aérien spécialisé en destination vacances Sunwing fera l'objet d'une enquête en raison de dizaines de plaintes qui ont été acheminées à l'Office des transports du Canada. Retard sur l'aire de trafic, retard en vol, annulation, bagages perdus et endommagés, Au total, 80 passagers de 23 vols différents en direction ou en provenance de l'aéroport Pearson de Toronto se sont plaints entre le 14 et le 18 avril. Des passagers ont déploré avoir dû composer avec des retards allant jusqu'à 29 heures, tandis que d'autres ont dénoncé de longs délais d'attente, coincés à bord d'avions sur le tarmac, sans pouvoir débarquer ni recevoir à boire ou à manger. Et finalement, les fruits et légumes frais du Québec vendus en épicerie devront obligatoirement porter une mention qui précise leur origine. Ainsi, tous les fruits et légumes récoltés en sol québécois devront avoir comme étiquette soit « produits du Québec »,« cultivés au Québec », »,« récoltés au Québec » ou encore le nom du produit, concombre, fraises, framboises, etc., suivi par « du Québec ». Le règlement entrera en vigueur dans 15 jours.
tiré de l'album Madman Across the Water, c'était Elton John, une demande spéciale de notre chère Hélène, Tiny Dancers. Encore une fois, bon anniversaire!
Merci Mathieu, c'était hier. Vous êtes le premier à me l'annoncer comme ça en onde officiellement. Jean-Sébastien me l'avait souhaité, mais de façon plus privée, parce que je voulais pas en parler. Mais non, c'est pas vrai. Ça me fait plaisir.
C'est vrai que j'aurais pu le demander avant si
non,
je peux,
non,
mais j'ai pas pensé. C'était pas écrit.
C'est juste gentil. Ça me touche. Merci. Alors, allons-y avec les journaux régionaux. Train léger, une première sortie publique dans le droit, Sylvie Branch. Pour la première fois, les médias et des membres du public ont pu faire l'essai du train léger sur rail à Ottawa mercredi après-midi. Le maire Jim Watson était accompagné des deux gagnants du concours, maire d'un jour, Madison Richmere et Jackson Milliner, deux étudiants de 10e année. Les conseillers Stephen Blais et Alan O'Blay, en plus des dirigeants d'Ossé Transpo, étaient aussi du voyage. Les invités d'honneur ont eu un avant-goût des déplacements dans le nouveau système de transport en commun. Ils ont pu se promener dans le wagon 9 et observer la ville depuis les rails de la ligne de la Confédération. En moins de 9 minutes, le train a parcouru la distance reliant les stations Tremblay et U Ottawa. « Je vais être le premier citoyen avec Madison à utiliser le train léger. C'est vraiment excitant », a confié Jackson avant de se rendre au lieu d'embarquement. La ville devrait recevoir les clés du chantier le 2 novembre, soit 6 mois plus tard que prévu. Le directeur général d'Ossé Transpo doit donner une mise à jour des travaux le 1er mai. Le groupe continue la construction et nous sommes encore confiants que la fin novembre est raisonnable pour le commencement du service, soutient le maire Watson. Les 13 stations seront réparties entre le pré Tooney et le chemin Blair. Par ailleurs, les deux gagnants du concours ont suivi pas à pas le maire Watson dans ses déplacements mercredi. Ils ont assisté à un enregistrement télé, présidé la séance du conseil municipal aux côtés du premier magistrat, rencontré le premier ministre Justin Trudeau et participé à différentes rencontres. La journée est plaisante et intéressante, soutient Madison, étudiante en 10e année à l'école secondaire, et Y. Jackson. Passer à la télévision, c'était toute une expérience. J'étais nerveuse, mais je me suis amusée. J'ai hâte à cet après-midi, on va rencontrer le premier ministre et faire un tour dans le train léger. Les deux étudiants ont remporté le concours grâce à leurs idées pour faire d'Ottawa un meilleur endroit pour vivre. Il s'agissait de la première édition du concours « Maire d'un jour » qui offrait la chance aux jeunes, de la 9e à la 12e année, de vivre une journée dans la vie du maire d'Ottawa. Plus de 90 demandes ont été soumises. Dans le Nouvelliste, Martin Lafrenière, Masquinongé résiste à la flambée des prix. Alors, si vous voulez aller faire le plein, il faut aller à Masquinongé si vous voulez économiser. Ça ne sera pas long parce que ma page fige. Eh oui, ça n'avance pas. Petite musique un peu, Mathieu, je vais essayer de régler le problème. C'est réglé. Le secteur de Masquinongé résiste donc aux dernières flambées du prix de l'essence, malgré une hausse récente qui fixe le prix moyen à 1,35 $ à Trois-Rivières et dans d'autres secteurs de la Mauricie. Le litre d'essence dans plusieurs municipalités de la circonscription de Masquinongé se vend 1,26 $, résultat d'un haut niveau de compétition, qui permet au secteur de constamment afficher les meilleurs prix depuis des années. Que ce soit des stations d'essence de Masquinongé, de Louiseville, de Yamachiche, de Charette et de Saint-Élie-de-Caxton, les usagers de la route trouvent de l'essence à ce prix, une différence de quelque 6,7% par rapport au prix général noté dans la capitale régionale. Ce prix est également inférieur à celui affiché à la station d'essence du magasin Costco de Trois-Rivières, où on vend un litre d'essence à 1,30 $, et à celui du centre du Québec, 1,31 $. Il est aussi nettement meilleur qu'à Montréal, où le prix moyen est de 1,44 $. Jean-François Quintal est directeur général de la halte 174 à Yamachiche. Cette halte routière hautement fréquentée a récemment changé de bannière et ce changement est avantageux. Avant, on achetait l'essence et on la revendait. Mais ici, avec un grand stationnement à entretenir, l'entretien des toilettes, on a plus de frais fixes. À la base, il fallait vendre plus cher car on payait l'essence plus cher. Maintenant, on est rendu avec Irving et on est en consignation. On a une commission fixe sur le prix de l'essence car le produit ne nous appartient plus. Et il faut être compétitif. On suit la compétition et je peux dire que dans les derniers mois, on a bloqué bien des hausses d'essence. Le marché René Sanson se trouve en plein cœur du village de Saint-Élie. Le commerce exploite également une station Esso et vend son essence à 1,26 $, le même prix que la halte 174. Ça marche par secteur, remarque René Sanson, le propriétaire du commerce. Dans notre secteur, l'essence se vend à ce prix et c'est souvent moins cher ici. C'est la manière dont le contrat est arrangé. On suit la compétition, on s'accote sur la concurrence et c'est le volume qui fait que c'est payant. Le CA Québec croit également que cette réalité particulière à la circonscription de Maskinongé relève d'une dynamique du marché. Il y a plein de raisons qui poussent des stations-service à mettre un prix plus bas, raconte Annie Gauthier, porte-parole de CA Québec. Des fois, c'est la proximité des stations-service. En garantissant les prix les plus bas, ça influence les autres stations qui ne veulent pas perdre leurs clients. Il y a des entreprises dont les frais sont peut-être moins importants. Avec d'autres services, elles sont capables de vendre l'essence moins chère. Dans le soleil, Carl Tardif, le retour de Patrick Roy avec les Remparts de Québec se confirme. Le club de hockey junior majeur dévoilera l'identité du successeur de Philippe Boucher jeudi à 11h, donc dans 3 minutes et des poussières, en conférence de presse au Centre Vidéotron. Roy y sera nommé entraîneur-chef et directeur général, des postes qu'il occupait à l'époque où il était aussi copropriétaire de la formation. Depuis la démission de Boucher dans les jours ayant suivi l'élimination des Remparts en première ronde éliminatoire, un seul nom circulait comme candidat à sa succession, Patrick Roy. Et Roy n'a pas caché son intérêt à revenir avec les Remparts. Après avoir rencontré le président Jacques Tanguay, il a pris quelques jours de réflexion avant de prendre sa décision. Le président de l'équipe n'a pas rencontré d'autres candidats à la succession de Boucher, mais il a reçu quelques curriculum vitae, selon ce qu'on nous a précisé. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens à Canal M de Vues et Voix. Restez avec nous dans un petit moment, les actualités culturelles et aussi les sujets libres.